Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose une méditation que j'ai intitulée Les tempêtes de la vie. Alors, c'est un petit peu un sujet d'actualité, vu que nous avons passé dans notre pays par quelques tempêtes qui ont fait quelques dégâts ici et là, et qui montrent que les tempêtes sont toujours présentes, même si on est ici en Alsace, bien loin des océans. Eh bien, on peut aussi ressentir les effets de ces tempêtes. Et moi, je vais aujourd'hui vous parler justement des tempêtes. Et avant cela, c'est possible, eh bien, on est en début d'année, et mon souhait, j'essaie de vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. Surtout que cette année vous apporte la sérénité. Parce que la vie n'est pas un emploi tranquille. Mais que vous puissiez expérimenter justement des moments de paix et de calme durant cette année, et surtout que vous sachiez en profiter. Cependant, il est possible qu'aujourd'hui, ce matin, vous ici présents, ou ceux qui nous écoutent sur Internet, vous soyez déjà dans des difficultés, dans la tempête. Ou bien que durant 2018, eh bien, vous passez par des moments tumultueux. Alors que faire? Comment réagir face à ces moments difficiles? La Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Et de même, eh bien, les tempêtes peuvent toucher qui que ce soit. Personne n'est à l'abri d'une maladie, du chômage, d'une déception sentimentale, d'un échec scolaire ou professionnel, de la perte d'un proche, d'une tempête météorologique, ou même parfois d'être dans un pays en guerre. Et le Nouveau Testament nous relate que Jésus lui-même est passé par la tempête avec ses disciples sur le lac. Et plus tard, il vécut la pire tempête de sa vie dans le jardin de Gethsémané. Et ce matin, pour illustrer les tempêtes, je vous propose de lire l'épisode de la tempête que vécut Paul dans le livre des Actes, au chapitre 27. Je vous ai mis ici une carte qui vous montre un peu le tracé du voyage qu'ils ont vécu pendant ce passage que je vous lis. Ils montaient sur un navire d'Andramite qui devait côtoyer l'Asie. Ils partaient justement de Césarée. Et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, toujours en Israël, et je vis qu'il traitait Paul avec bienveillance, qui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. À partir de là, nous longeons l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, qui est située un petit peu dans la Turquie actuelle, nous arrivons à Myra en Lycie. Et là, nous centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fûmes montés. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Bétor, près duquel était la ville de l'Asie. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeune était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était plus bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à ce sujet et se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Mais bientôt, avant un petit pays qu'on appelle Héraclion, se dessina son mineur. Le navire s'entraînait sans pouvoir lutter contre le vent, et nous, les femmes, allaient à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île de Bethsaida, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi de moyens de secours pour feindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la soute, on a baissé les voiles. Et c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions de le vent battu par la tempête, le lendemain, on jeta le cargaison à la mer. Et les trois jours, nous y lancions de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit : Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celui du navire. Un ange de Dieu à qui t'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit : Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car vous êtes confiant en Dieu qu'il en fera comme il m'a été dit. Nous devons rester sur une île. La 14e nuit, pendant que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent à nouveau et trouvèrent 15 brasses. Et dans la crainte de heurter contre les étoiles, ils jetèrent 4 longues de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte qu'ils ont jeté les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats : Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant : C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne s'éteindra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangeaient aussi. Nous étions dans le navire 265 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allaient vers le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres, les laissèrent dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Arpion et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une longue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats sont allés tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce destin. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur les planches où se faisait du bris de navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et sauvés. Alors, première chose qu'on pourrait se demander, qu'est-ce qu'une tempête ? Eh bien, une tempête, c'est un phénomène météorologique lié à des vents puissants, c'est-à-dire à des vents supérieurs à 110 km/h. Il s'agit bien sûr d'un phénomène imprévisible. Une tempête, comme je vous le montre cette image, est toujours liée à deux phénomènes atmosphériques. D'un côté, on a un phénomène de dépression atmosphérique, c'est-à-dire de l'air chaud qui remonte, qui s'élève, qu'on appelle un air chaud ascendant, et qui va provoquer au niveau du sol une basse pression. C'est pour ça qu'on parle de dépression. Et puis, à côté, vous allez avoir la formation d'un anticyclone. Un anticyclone, c'est quoi ? C'est de l'air froid qui redescend des hautes atmosphères. Et alors, à ce moment-là, au niveau du sol, on a une haute pression. Et l'air, eh bien, l'air va toujours circuler des hautes pressions vers une basse pression. Et c'est à ce moment-là que se créent les vents. Et plus les différences de pression entre les hautes pressions et les basses pressions seront importantes, et plus les vents seront rapides et violents. Et tout l'art de la navigation à voile, eh bien, on repose justement sur cette capacité à profiter des vents sans être pris au piège des dépressions et de ces vents violents si justement on tendance à nous inspirer dans le centre de la dépression, ni justement aussi de se retrouver pris dans un anticyclone où là, il n'y a pas de vent et on reste bloqué des jours et des jours sans bouger. Et plus on va aller vite, plus il faut s'approcher des zones de dépression. Et actuellement, si nos supports arrivent à obtenir des résultats aussi phénoménal, spectaculaire, lorsqu'ils font des tours du monde à la voile, c'est parce qu'ils ne sont pas seuls, mais parce qu'il y a des équipes, il y a des scientifiques, il y a des météorologues qui sont là pour les conseiller, pour les diriger, pour les aider à suivre le meilleur chemin, tout en longeant le plus près possible des dépressions, sans y rentrer et en ayant les vents les plus forts. Mais il en est de même dans notre vie. Il nous arrive de rencontrer des zones de turbulence. Et ces dernières, eh bien, elles nous permettent d'avancer. Elles nous permettent de progresser. Cependant, à la fois, il faut arriver à avancer, mais en même temps, comme le skipper, il faut savoir se préserver de s'enfoncer dans la tempête et d'être pris par elle. Paul, dans le passage qu'on a lu, était prisonnier à bord d'un navire qui voguait justement d'Israël vers Rome. Et arrivé en Crète, après un périple à travers la Méditerranée, Dieu a dit à Paul d'avertir l'équipage de ne pas quitter le port à cause de l'imminence d'une tempête. Mais ils n'ont pas écouté. Et ils ont fini par faire naufrage. En fait, ils ont préféré quitter les beaux ports que je vous ai indiqués ici pour aller jusqu'à Phénix. Et sur la carte, beaux ports et Phénix, c'est 40 km. Et quand on réfléchit un petit peu, eh bien, Beauport, c'est synonyme de repos, de tranquillité. Mais eux, ils ont préféré Phénix. Phénix, c'est quoi? C'est le symbole de la puissance sur la mort, de l'immortalité, de l'éclat, de la beauté. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas se contenter de ce qu'ils avaient. Ils voulaient toujours plus. Ils voulaient le brillant, ils voulaient l'éclat. Plutôt que le calme et la sérénité, eh bien, ils recherchaient toujours plus, toujours mieux. Et ce matin, peut-être parmi nous, ceux qui nous écoutent, parmi nous ici, peut-être que certains sont tentés d'aller voir ailleurs, au niveau professionnel, peut-être même au niveau de leur couple. Peut-être qu'ils se disent, ah, cette jeune femme que je vois là, c'est le phénix, c'est la beauté, c'est l'éclat, c'est l'attirance. Mais c'est eux qui disent ce matin que, voilà, pour l'exemple de ce qui s'est passé, phénix, ils ne l'ont jamais atteint. Ils ont dérivé, mais ils n'ont jamais atteint phénix. Et puis, une deuxième question qu'on pourrait se poser, pourquoi ont-ils voulu partir? Pourquoi ont-ils voulu quitter le beau temps? Eh bien, peut-être aussi parce qu'ils étaient dans la patience. Peut-être qu'ils voulaient respecter le délai parce qu'ils avaient une cargaison à transporter. Et justement, en réalité, quand nous laissons la patience nous gagner, nous finissons souvent dans la tempête. Un pasteur écrit un jour, j'ai parlé avec bien des gens en grande difficulté qui étaient impatients de se marier, de changer d'emploi ou de déménager à l'autre bout de la ville. Ils ne prenaient pas le temps d'en parler avec Dieu et voguaient tout droit dans les tempêtes. Au lieu d'attendre que Dieu choisisse votre partenaire, la solitude peut vous jeter dans les bras de la mauvaise personne et vous mener à toute une vie de malheur. Prendre des décisions financières faut consulter d'abord Dieu, risque de vous embêter pour longtemps. Et quand Dieu dit non, ce n'est pas forcément celui de jamais. Il dit juste pas maintenant. Et ça vaut le coup d'attendre ce qu'il vous réserve. Et ce matin, ce que nous voulons bien garder en tête, c'est que Dieu fait un travail de préparation en nous, afin de nous équiper pour réaliser ses plans. Dans la Bible, dans Ésaïe, il est écrit, c'est le suivant, celui qui l'apprendra pour appris n'aura pas honte de fuir, alors n'ayons pas l'impatience qui fait brûler les étapes. Et dans Psaume 37, il est écrit, espère en l'Éternel, garde sa voie, il t'élèvera. Alors, l'autre question qu'on peut poser, c'est comment pouvons-nous éviter le naufrage de notre vie? Comment pouvons-nous éviter de nous retrouver dans le creux de la tempête? Tout d'abord, la première chose, c'est ne prenons pas la vie des mauvaises personnes. Même si elles sont soi-disant expertes, la Bible dit justement, le centenier se fie au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles du Paul. Peut-être que l'armateur était un fin commerçant qui connaissait très bien la Méditerranée et que le capitaine était un marin chevronné. Néanmoins, aucun des deux n'était capable d'entendre la voix de Dieu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut bien choisir ceux que vous laissez intervenir dans votre vie. La réussite de quelqu'un dans le domaine professionnel, dans le domaine séculier, ne suffit pas à le qualifier pour devenir votre guide spirituel. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Alors, où trouver les bons conseils? Où trouver les bons conseils spirituels en cas de besoin? Tout simplement chez ceux qui ont prouvé qu'ils méritent votre amour et votre respect. Des personnes dont vous connaissez la vie et qui vous connaissent. Non pas de beaux discours, des gens légers, mais des gens profonds et conséquents. Pas des yakas locaux, mais des personnes à l'écoute, ayant de l'empathie et de la compassion. Des gens qui seront vous accompagner dans vos choix, éclairer votre réflexion, et non vous donner des recettes toutes faites. Ensuite, comment pouvons-nous éviter le naufrage dans notre vie? Et bien, deuxièmement, c'est rappelez-vous que parfois, la majorité a tort. Dans Actes 27, il est écrit la plupart sur David de remettre la voile. À l'évidence, bien la majorité peut se tromper. Reprenez l'exemple de Moïse. Lorsque Moïse a entrepris de conduire les enfants d'Israël vers la terre promise, la majorité d'entre eux voulait retourner en Égypte. C'était une erreur. Une erreur fatale, d'ailleurs, qui les a amenés à la mort dans le désert. On peut vraiment se mettre dans des situations inexplicables en suivant l'opinion à la mode et les idées les plus populaires. D'ailleurs, dans notre monde actuel, où les médias, TV, Internet, radio influencent les masses, ne pas avoir l'opinion de la majorité dans de nombreux domaines est souvent synonyme non pas d'erreur, mais bien au contraire, de vérité. Écoutez la voix de Dieu et vous irez toujours dans la bonne direction. Dans Psaume 25, il est écrit, il enseigne aux humbles son chemin. Ensuite, troisièmement, ne plus se fier aux circonstances. Aussi, on ne peut pas se contenter de suivre simplement les événements. Qu'est-ce que nous dit le passage? Allez, le vent du sud vint à souffler. Et se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Héraclion, se détourna sur lui. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous le laissâmes aller à la dérive. Il est insensé d'ignorer ce que Dieu dit, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Même si tout paraît aller bien sur le moment, vous pouvez voguer tout droit vers la tempête. Vous dites, cette décision doit être la bonne puisque je me sens si bien, je suis en paix. Et souvent, vous entendez des gens dire ça lorsque vous êtes en contradiction. Dans la contradiction, vous dites, oui, mais moi je suis en paix. Mais être en paix, ce n'est pas être dans la voie de Dieu. N'oubliez pas que les sciences peuvent tromper. Et si Dieu dit attends au port, vous feriez bien d'obéir. Car notre ennemi, l'ennemi de notre âme, le diable, ne se privera pas de provoquer la tempête si vous sortez en mer alors que Dieu ne vous a pas demandé d'y aller. Et notez ce mot, se croyant maître de leur dessein. Et combien de fois nous pouvons nous sentir en capacité de maîtriser la situation alors qu'il n'en est rien. L'orgueil nous passe souvent au-dessus des choses, mais là aussi c'est un leurre. Lorsqu'Adam a péché dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit, le diable lui a dit qu'il sera comme Dieu. Ça veut dire qu'il sera tout-puissant, omniscient. Et là, c'est un leurre. On ne veut pas tout connaître. On ne veut pas tout savoir. Et donc, être au-dessus des choses est un leurre. Nous sommes humains. Et pour ne pas sombrer dans la tempête, nous devons nous prémunir de l'autosuffisance. Ne pas être comme dans la parole d'un homme riche, cet homme riche qui disait « Ah, mon âme, repose-toi maintenant, tu as des biens en réserve pour longtemps. » Non. Parce que la Bible dit que la nuit même, son âme se reprise. Pour les décisions importantes de notre vie, appuyons-nous sur ce verset. Dans Psaume 5, verset 9, il est écrit « Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes détracteurs, aplanis ta voix devant moi. » Au Psaume 25, verset 5, il est écrit aussi « Fais-moi fondre dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. » Au Psaume 27, il est écrit aussi « Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Dans le psaume 143, enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. Et si nous prions de cette manière, si ces prières de David nous les faisons nôtres, eh bien Dieu nous guidera dans la bonne direction. Attention cependant. Certains parfois considèrent que la tempête dans laquelle ils sont est liée à l'adversité. Que c'est le diable qui s'acharne contre eux. Ils sont convaincus que Dieu leur a parlé, qu'ils sont dans les plans de Dieu, tandis que tout chancelle autour d'eux. Alors qu'en fait, ce sont eux qui sont entrés dans la tempête, malgré les conseils de leur entourage. Souvent, nous avons tellement le nez dans le guidon, submergé, qu'on ne réalise pas l'évidence, et on se jette dans la tempête. Ou bien les conseils de notre entourage ne correspondent pas à ce que vous voulez entendre. On préfère se laisser charmer par cette petite voix intérieure qui semble être en accord avec nos aspirations et qui est tout sauf la voix du Saint-Esprit. Cependant, il faut quand même reconnaître qu'il peut nous arriver de nous tromper, de faire le mauvais choix, de se retrouver quand même dans une tempête dans notre vie. Alors, quoi faire? Dieu va-t-il nous faire tomber parce que j'ai fait une erreur? De plus, certaines des tempêtes de notre existence ne dépendent pas de nos choix. mais des circonstances de la vie. La maladie, les accidents, le chômage parfois ne dépend pas de nous. C'est des choses qui nous tombent dessus comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous faire quand nous sommes dans la tempête? Eh bien, la première chose, c'est ne dérivez pas. Devant la crise, nous avons typiquement les trois mêmes réactions que ont eu les marins à bord du bateau de Paul. Le navire s'est entraîné sans pouvoir tenir contre le vent, mais nous nous laissons aller à la dérive. Et là, je vous ai mis sur cette carte. Cette dérive, elle a duré 14 jours. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils devaient faire 37 km. Eh bien, en 14 jours, ils ont parcouru plus de 1000 km. Les tempêtes de la vie, elles tentent toujours d'abord de nous faire dériver. Nous perdons de vue nos objectifs et nous oublions la direction à prendre. On ignore nos valeurs et on s'écarte du parcours. Sans boussole et sans étoile pour les guider, les marins étaient dans le noir complet. Et nous, que faisons-nous sans étoile et sans boussole? Eh bien aussi, nous allons dériver. Nous allons où les vagues nous emportent. On se laisse alors balloter au gré de nos problèmes. Et dans la vie, le courant fort peut nous décourager au point de nous demander à quoi ça sert. Pourquoi lutter? Et le courant finit par nous emporter. Mais c'est maintenant l'heure de faire le contraire. Confessez votre foi. Dans le bruit, il est écrit, confessons notre espérance sans réfléchir. Celui qui a fait la promesse est fidèle. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et notez la phrase, celui qui a fait la promesse est fidèle. Non, Dieu ne vous a jamais abandonné. Et il ne le fera pas maintenant. Même si vous avez l'impression que c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette tempête, Dieu ne vous laissera pas tomber. Et il vous aidera à surmonter cette crise. La deuxième chose à faire quand on est dans la tempête, c'est ne jetez pas l'essentiel. Rien n'allait plus que le bateau qui emmenait Paul à Rome. Fortement soutenu par la tempête, on jeta la main une partie de la cargaison. Le troisième jour, ils enfermèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Notez bien tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la précieuse cargaison. Ils ont fait les agrès du navire. Tout l'équipement qui permettait au bateau d'avancer et de se maintenir à flot. Et après, ils ont même jeté leurs provisions indispensables pour les nourrir. Et à la fin, les marins voulaient même se jeter eux-mêmes à la mer. Ils voulaient plus se sauver. Et en pleine crise, eh bien, on a tendance à se débarrasser des choses essentielles, des valeurs sur lesquelles on s'est appuyé au temps meilleur. Sous pression, on veut tout jeter. On devient compulsif. On abandonne ses rêves, on fuit par soi-même ses amis, ses relations. On oublie le principe important appris dans sa jeunesse. Jésus a dit aux enfants d'Israël, mais vous, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de douter des promesses que Dieu nous a faites, appuyons-nous encore plus fort sur elles au moment de la tempête. Au lieu d'abandonner ses plans, ses objectifs pour notre vie, tenons-les plus fermement au jour de la tempête. Paul dira, ainsi les femmes, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et dans Philippiens, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et voilà comment justement nous pourrons survivre et surmonter une tempête de notre vie. Et puis, troisième point, que faire dans la tempête? Eh bien, continuons à nous nourrir. Dans la difficulté, quand vient le découragement, l'impression de se battre contre des montagnes, contre des puissances beaucoup plus fortes que nous, ça peut mener jusqu'à la dépression. Et justement, dans une tempête, les vents nous emmènent dans le cœur de la dépression. On n'a plus de goût à rien. Même manger nous devient impossible. On n'a plus d'appétit. Et le fait de ne pas manger diminue encore nos forces. Nous entraîne dans la spirale de la dépression. Et il en est de même d'un point de vue spirituel. Dans l'adversité, dans les tempêtes de la vie, eh bien, on a tendance à ne plus lire la parole de Dieu. On ne prie plus. On ne nourrit plus son âme. On cherche à se débattre avec nos propres forces, avec nos propres armes. Or, Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu dans mon cœur. Et Jésus lui-même dira, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dans Jean chapitre 6. Il dit aussi, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et d'ailleurs, dans le passage des Actes, qu'est-ce que Paul? Il a ce que vous dites. Il a pris le pain, il a rendu grâce et il a distribué entre tous. Dans la tempête, nous ne devons absolument pas tomber dans l'anorexie spirituelle afin de ne pas défaillir. Et puis ensuite, dernier point sur ce que nous devons faire dans la tempête, ne perdons pas l'espoir. Dans le passage des Actes, il est écrit, la tempête se maintenait si forte que nous avons perdu finalement toute espérance d'être sauvés. L'espoir est la dernière chose qu'on jette par-dessus bord en temps de crise. Et si on le fait, on le fait. Êtes-vous dans la tourmente face à un problème, au point de tout jeter, d'être au bord du désespoir? Rappelez-vous les marins sur le bateau. Ils ont finalement perdu toute espérance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié que Dieu contrôlait la situation. Oublié qu'il avait un plan. Oublié qu'il pouvait insuffler de l'espoir, même dans les conditions les plus difficiles. Et pourquoi ils avaient perdu l'espoir? Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Imaginez-vous être ballotté sur un petit bateau en pleine mer Méditerranée, en plein hiver. Et la peur est destructrice parce qu'elle force notre confiance en Dieu, en sa bonté. Elle provoque un défoulement de doute. La peur engendre une forme d'amnésie spirituelle. Vous souvenez de votre s'estompe. Elle vous fait oublier ce que vous avez fait et combien vous êtes bon. D'ailleurs, dans le passage, même Paul est dans la peur. Et il a fallu qu'un ange vienne le visiter et lui dire « Ne crains pas ». Paul n'était pas plus fort que les autres, il était aussi dans la peur, et c'est fini. Ça faisait 14 jours qu'ils étaient ballottés comme ça. Et si la crainte vous domine, eh bien, la sécurité va devenir votre Dieu. Et dans ce cas, vous allez rechercher une vie sans risque. Mais en fait, ceux qui ont peur, quand on y réfléchit bien, eh bien, ils ne peuvent vraiment aimer. Parce que l'amour, eh bien, ça demande des risques. Ils ne peuvent demander pour, Car d'un point de vue humain, ce n'est pas pour ce que je donne que je vais garantir en retour de recevoir. Petite parenthèse. Je suis souvent surpris quand les gens disent, moi, j'investis en Dieu. Dieu n'est pas une banque. Dieu ne va pas nous redonner avec des intérêts. Je ferme la parenthèse. Quelqu'un qui est dans les peurs, elle ne peut rêver ni avoir des projets, nourrir quelconque ambition. La question qui va être posée, c'est et si mes rêves volaient en éclats, et si mes rêves tombaient à l'eau. Et rien d'étonnant à ce que Jésus ait mené une telle guerre contre la peur. Dans le livre de Dieu, Jésus nous donne 125 commandements. Et parmi eux, 21 fois, il va dire de ne pas avoir peur. Et le second commandement le plus fréquent, c'est aimer Dieu et son prochain. Et ça n'apparaît que 8 fois. Si on se fie ici, Jésus considère la peur comme un de nos plus gros problèmes. Et voilà pourquoi il déclare si souvent, et aujourd'hui encore, n'ayez pas peur. Voilà pourquoi vous devez affirmer vos doutes et nourrir votre foi de la parole de Dieu. Car c'est la foi qui vous fera traverser la tempête. Et dans la Bible, espérance n'est jamais chance, hasard, accident. Non. Espérance, c'est avoir une foi inébranlable. Dans le psaume 31, il est écrit « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. » Dans le psaume 33, il est écrit aussi « Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. » Afin de rappeler leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur se réjouit en lui car nous avons confiance en son Saint-Nom. Et puis, en 42, il est écrit « Pourquoi t'as battu mon âme et je me tue pour moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et dans Romains, il est écrit aussi que tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, ma conclusion aujourd'hui, c'est ne perdez pas d'espoir, même si vous êtes dans la tempête. Mais attendez-vous à Dieu. Ne dérivez pas, ne jetez pas l'essentiel. Continuez à vous nourrir. Et surtout, comme il est écrit dans Jean, chapitre 16, au verset 33, la plus suivante. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, merci. Merci parce que même si nous passons par des moments difficiles, par des choses qui nous paraissent insurmontables, Seigneur, toi, tu es là. Tu es là pour nous soutenir, nous encourager. Seigneur, tu es là aussi parce que souvent le doute vient et on se dit mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai eu cette situation? Pourquoi je suis en telle tempête? Et c'est vrai que la culpabilité a aussi tendance à venir facilement sur nous. Mais Seigneur, c'est toi qui nous justifie. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui nous encourage. Et Seigneur, ce matin, je veux prier pour ceux parmi nous ou pour ceux qui entendent ce message par Internet. Seigneur, je veux prier pour eux, je veux prier pour toutes les personnes qui passent par des difficultés, qui passent par des tempêtes, qui passent par des moments extrêmement difficiles. Des moments où ces personnes sont tentées de tout laisser tomber, de ne plus se nourrir, de se laisser dériver, de partir à la dérive. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'éclairer leur chemin, de les aider, de les encourager, de les fortifier, de les aider à tenir ferme jusqu'à l'arrivée au bon port, que la tempête puisse enfin se calmer autour d'eux et qu'ils puissent rencontrer un temps de repos. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Vraiment que tu puisses nous bénir encore chacun cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen.